Je ne sais pas si j'ai un ministère de réconciliation avec les mathématiques. Le Seigneur nous a demandé déjà d'avoir un ministère de réconciliation avec lui. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir un ministère de réconciliation avec le Seigneur qu'avec les mathématiques. Ce matin, je vous ferai grâce, je ne vous parlerai pas de fonctions, de dérivées, de logarithmes, de primitives ou d'intégrales. Ouh là là, mais savez-vous que la Bible est remplie de mathématiques ? Dieu est un Dieu de la création, et les mathématiques ne lui sont certainement pas des choses étrangères, ni les lois de la physique, et même au-delà. Et donc, dans la Bible, il existe toutes sortes de mathématiques. Mais il existe des mathématiques très simples. Des mathématiques qui nous sont accessibles. Ce sont celles de la multiplication. Ça, ce sont les mathématiques de Dieu. Car je crois que le signe opératoire que Dieu préfère parmi tous, c'est celui de la multiplication. Connaissez-vous le signe opératoire du diable ? C'est la division. Mais Dieu est un Dieu de multiplication. Le signe opératoire des hommes, c'est le plus ou le moins. Parce que nous ne sommes pas capables, nous, par nous-mêmes, de multiplier quelque chose. Le seul qui peut multiplier, c'est Dieu, n'est-ce pas ? Et nous allons parler cette semaine et puis la prochaine fois de la multiplication de Dieu, la multiplication de Dieu dans l'Église et la multiplication de Dieu dans nos vies aussi, parce que les deux se retrouvent et c'est là une grande grâce. Alors, ce matin, je ne veux pas vous prêcher sur des concepts ou sur des trouvailles bibliques, même si elles sont ce que je vais vous partager a vraiment touché mon cœur, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, mais non, je veux vous parler de mathématiques concernant l'Église, mais qui sont des choses très concrètes, parce que je demande à Dieu que ce que vraiment je vais pouvoir partager avec vous soit comme une parole prophétique pour notre Assemblée et pour d'autres Églises encore. Nous allons aller dans le livre des Actes tout à l'heure, et le livre des Actes est un livre qui nous parle de l'expansion de l'Église, de la croissance de l'Église, de Jérusalem jusqu'à Rome, déjà dans un premier temps. Et vous savez, le Seigneur dit à cette parole que le royaume de Dieu est semblable à un scribe, l'instruit, hein, qui est comme un maître de maison qui va tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et nous connaissons bien les Actes des Apôtres, nous aimons ce livre, nous l'avons beaucoup étudié, mais souvent et depuis quelque temps, chaque fois que je retourne dans ce livre, le Seigneur me permet de découvrir des nouvelles choses. J'avais vraiment à cœur de vous partager ces choses parce qu'elles sont un peu cachées, parce qu'elles ne sont pas mises en évidence dans notre texte français. Et il faut donc un peu aller gratter et remonter à la source du texte, même du texte grec, pour découvrir quelque chose de très simple, mais d'une portée vraiment extraordinaire concernant la croissance de l'Église. Et ces choses, donc, sont des petites choses mathématiques. Dans le monde entier, quel que soit le lieu, quelle que soit la culture, donc quelle que soit même l'opposition religieuse et politique, les Églises de Jésus-Christ grandissent. Elles croissent. Vous savez qu'elles grandissent même plus vite que ce que nous-mêmes nous l'imaginons. Et nous sommes surpris des fois d'entendre que dans tel ou tel pays lointain, de telle culture religieuse, bouddhiste, musulmane ou hindoue ou autre, il y ait des assemblées d'une telle taille, d'une telle vivacité. Et nous sommes surpris de cela, nous-mêmes chrétiens, nous ne parlons pas des médias. Est-ce quelque chose de surprenant ? Rien ne nous étonne de la part de Dieu. Mais rien ne doit nous étonner concernant la croissance de l'Église. Car la croissance que ces églises connaissent aujourd'hui n'a rien de différent que celle que connaissait l'église de Jérusalem et ensuite l'église des apôtres. La bénédiction de croissance est au cœur même du projet de Dieu pour la vie. Dieu est un Dieu de croissance, Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, encore moins de décroissance. Dieu est un Dieu de croissance. Et nous pouvons retourner, et ça sera mon premier texte, bien éloigné des Actes, c'est vrai, mais nous pouvons retourner au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, pour découvrir quelle est la première parole que Dieu adresse à l'homme. Une parole de bénédiction, vous la connaissez, Genèse 1, verset 28, où il est dit que Dieu bénit l'homme et la femme, et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Et je voudrais vous montrer dans quelques instants qu'il y a un lien entre cette parole de bénédiction et la croissance de l'Église. La croissance de l'Église vient de cette première parole que Dieu a adressée à l'homme. Certains se demandent si l'Église doit croître. L'Église doit croître. L'Église doit grandir. Parce que l'Église est vivante. Tout organisme vivant est programmé pour grandir. Au contraire, un enfant qui ne grandit pas nous inquiète. La vie a pour objet la croissance. Et il en est pareil pour l'Église parce que nous croyons que l'Église est vivante. Et ce que je dis, et ce que je vais dire ce matin, c'est pas simplement donc pour les Églises qui sont au loin. Ce que je vais dire ce matin, c'est vrai aussi pour les Églises à Paris, en France, et même pour la nôtre. Béni soit le Seigneur, n'est-ce pas ? Alors je reviens donc à ce texte de Genèse 1:28 et à travers lui, je vais donc faire un lien avec le livre des Actes des Apôtres et avec l'expansion, la croissance de l'Église. Nous connaissons donc ces paroles, être fécond et multiplié. Et pour décrire la croissance de l'Église, nous allons voir cette première diapositive. Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc utilise deux verbes qui reviennent très régulièrement. Dans Actes 6-7, il écrit donc « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » Acte 7-17, « Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte », ça c'est le discours d'Étienne. Acte 12-24, « Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Et là, reste s'il te plaît sur la première diapositive, et là, j'ai souligné les verbes et nous avons à chaque fois les deux mêmes verbes, « oxano », qui veut dire « croître »,« pousser », c'est un verbe lié au domaine de l'agriculture. Et nous avons le verbe « plétuno » qui veut dire « augmenter » mais qui veut surtout dire « multiplier ». Donc à chaque fois que vous avez « répandre »,« augmenter », vous avez donc ces deux verbes « oxano » et « plétuno ». Luc est le seul écrivain du Nouveau Testament qui ne soit pas juif d'origine. Et sa langue était le grec. Et lorsqu'il lisait l'Ancien Testament, le Tanakh, il le lisait dans la version appelée des Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament. Et ce qu'il lisait dans cet Ancien Testament en grec a influencé, c'est certain, ce qu'il nous a laissé dans ses propres écritures. Et qu'a-t-il pu lire dans l'Ancien Testament en grec ? Il a pu lire notamment Genèse 1:28. Dieu les bénit, Dieu leur dit « soyez féconds ». Tiens, le verbe « oxano ». Multipliez, le verbe « plétuno ». Ces deux mêmes verbes qu'il utilise ensuite pour parler de la croissance de l'Église dans les Actes. Genèse 35, Dieu parle à Jacob et Dieu lui dit « je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond ». Oxano. Et multiplie, plétuno. Plus tard encore, Exode 1:7. En Égypte, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Lévitique 26:9, « Je vous rendrai féconds, dit le Seigneur. » C'est une promesse de l'Alliance. « Et je vous multiplierai. » Donc, comprenez bien que lorsque Luc parle de la croissance de l'Église avec les verbes qu'il utilise, il établit un lien entre les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament et les paroles de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Il y a un lien. Il explique la croissance de l'Église d'après les paroles de Dieu, de l'Éternel lui-même, tant de paroles données à Adam que paroles données aux patriarches, que paroles données à Israël. Je comprends donc que la bénédiction que Dieu a mise sur Adam, qu'il a ensuite confiée à Abraham, qu'il a renouvelée envers Israël en faisant d'elle une promesse de l'Alliance, cette même bénédiction repose aussi sur l'Église de Jésus-Christ. Dieu a voulu qu'il y ait une continuité. C'est la même bénédiction. Nous sommes sous la même bénédiction. Celle que Dieu a confiée à Adam et celle qu'il a confiée à Abraham. Et la nôtre aussi. Une bénédiction de croissance, une bénédiction de multiplication. Béni soit le Seigneur. Je comprends donc, mes frères et sœurs, que la croissance est au cœur même du projet de Dieu. Dieu a un projet d'augmentation, un projet de multiplication. Nous le voyons encore s'accomplir pour Israël. Israël est un pays étonnant. Petit pays, petit peuple par le nombre. Mais que de choses. Que de choses extraordinaires accomplies par cette nation. Mais l'Église de Jésus-Christ est pareille. Nous n'y trouvons pas les gens influents de ce monde. Nous y trouvons souvent des gens simples. Mais pourtant, cette Église, même si elle est ignorée des médias, nous le savons, elle remplit toute la terre. Elle multiplie, elle se répand, parce que la bénédiction de Dieu est sur elle. Bénédiction de croissance, bénédiction de multiplication. Amen. Au point même que la question n'est pas de savoir comment nous allons croître et multiplier, mais la question est de savoir pourquoi on ne croit pas avec un accent circonflexe sur le « i ». Parce que la croissance est dans l'ADN de l'Église. Dieu l'a voulu ainsi. Alors maintenant, après avoir fait ce lien qui... pour moi est important ce lien entre la parole de Dieu et ce qui se passe dans les actes des apôtres. Après avoir fait ce lien, nous allons maintenant aller dans les actes des apôtres et nous allons voir que dans les actes des apôtres, Luc va identifier trois phases de croissance dans l'Église. Et ces phases sont très intimement liées à la parole du Seigneur dans Actes 1-8, vous connaissez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pouvons dire que à chaque phase de croissance correspond aussi une croissance mathématique particulière. C'est ce que nous allons voir avec quelques diapositives. Nous avons là une droite, un segment qui nous montre une croissance, que l'on appelle une croissance arithmétique. Une croissance arithmétique, c'est une croissance par addition. On ajoute au fur et à mesure. C'est une croissance plus ou moins forte, c'est une croissance plus ou moins régulière. Ici, c'est très régulier, mais ce n'est pas forcément la chose à chaque fois. Eh bien, cette croissance, nous allons la retrouver, cette forme de croissance, dans les Actes des Apôtres, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5. On va y venir dans quelques instants. Puis, il est question, en mathématiques, d'une autre forme de croissance, qui est la croissance appelée géométrique. Et qui, elle, fait référence à une multiplication. C'est une courbe qu'on appelle exponentielle. Et nous voyons la croissance, alors là aussi elle est régulière, mais dans la vie pratique elle n'est pas forcément aussi régulière, elle est plus ou moins accentuée. En tout cas, ce qui est clair, nous allons le voir, c'est que cette croissance géométrique se retrouve dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 6. Et enfin, il est question, à partir du chapitre 8, il n'y a pas de diapo pour cela, d'une croissance extensive. Par croissance extensive, nous allons voir qu'il n'est plus simplement question, à partir du chapitre 8, de la croissance de l'Église dans un lieu donné, mais de l'expansion de l'Église au-delà de son lieu initial. Alors, trois catégories de questions. Quels sont les résultats de ces croissances ? Quels sont les moteurs de cette croissance ? Et comment l'Église est-elle passée d'une croissance arithmétique, progressive, à une croissance géométrique par multiplication, et ensuite à une croissance par extension, par expansion ? Je voudrais vous dire que ce message, encore une fois, n'est pas simplement un message pour vous apporter un enseignement assez intéressant, pour partager des principes, des préceptes, non. Si je prêche cela, c'est parce que je suis convaincu que la bénédiction de Dieu est sur nous. Et que Dieu a en réserve ses croissances, même pour nos églises en France. Et si je prêche cela, c'est dans l'intention non seulement d'éveiller notre notre curiosité, notre réflexion, mais de nous pousser à la prière et à la foi en vue de l'accomplissement de ces croissances dans notre assemblée, dans nos assemblées, ici, dans notre pays. Alors revenons-en, si vous voulez bien, à cette première phase de croissance que j'ai appelée une croissance arithmétique. Et je voudrais revenir un instant avec vous dans les Actes, au chapitre 2, versets 44 à 47. Acte 2, versets 44 à 47, je refais cette lecture que nous connaissons bien, où il est dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église, ceux qui étaient sauvés chaque jour. C'est ici le début de cette phase de croissance. Première phase de croissance de l'Église, une phase de croissance arithmétique, et cette phase de croissance est directement liée à la Pentecôte. La croissance de l'Église a commencé le jour où le Seigneur a répandu son esprit sur l'Église. C'est une dynamique que Dieu a enclenchée. Une dynamique que rien ne peut arrêter. Et du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, par trois fois, nous allons le voir sur la diapo suivante, Luc va nous parler donc d'une croissance, d'une augmentation. Acte 2, 41, après la prédication de Pierre à la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 47, je viens de le lire, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Eh bien, dans chacun de ces versets, il y a un verbe que j'ai souligné, augmenter, ajouter, et à chaque fois, il est question d'une croissance par addition. Et le verbe qui est là, en grec, c'est le même verbe, prostitémi, qui veut dire ajouter, qui veut dire additionner. Et donc pendant toute cette première phase de croissance de l'Église, il y a eu une croissance linéaire, une croissance progressive, une croissance par addition. Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'Église. Et les effets ont été de magnifiques effets, puisque nous savons qu'au premier jour de la Pentecôte, 3000 se sont convertis. Nous ne savons pas s'ils sont tous restés à Jérusalem, puisqu'il est dit qu'il y avait beaucoup de prosélytes, mais aussi de gens de toute la diaspora qui étaient là. Alors peut-être beaucoup sont retournés dans leur pays, mais il en est certainement resté un certain nombre à Jérusalem. Et à partir de ce nombre, le Seigneur a construit son église à Jérusalem. Et nous savons que quelque temps plus tard, dans Acte 4, il est fait mention de 5000 hommes. 5000 hommes, hommes masculins. Ce qui nous laisse penser qu'ils étaient beaucoup plus, puisqu'il devait y avoir aussi certainement des femmes et des enfants, des familles qui étaient là et qui s'associaient à l'Église. Un peu plus loin, dans Actes 5, 28, les Juifs font dire aux apôtres, « Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Ce matin, en relisant mes notes, je me disais, « Tiens, ce verbe remplir me rappelle quelque chose. Soyez féconds, multipliez et remplissez. » Et ils avaient rempli Jérusalem de leur enseignement. Et cela en l'espace de très peu de temps, 2-3 ans, certainement pas plus que cela avant le martyre d'Étienne. Alors quels étaient les ingrédients de cette croissance? Et je reviens sur Acte 2, 46. Les raisons de cette croissance se trouvent dans ce verset. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'ai souligné chaque jour, j'ai souligné ensemble. Alors évidemment, chaque jour peut nous paraître un peu excessif ou réservé à des temps spéciaux de réveil ou de grande visitation du Seigneur. En tout cas, c'était une réalité dans l'église de Jérusalem. Les gens étaient tellement attachés au Seigneur, attachés les uns aux autres, attachés à leur communauté, qu'ils trouvaient bon de se réunir chaque jour. Et ils se réunissaient ensemble. Alors je ne dis pas que nous devons nous réunir chaque jour pour qu'il y ait une croissance de l'Église. Mais comment sommes-nous attachés à l'Assemblée? Comment sommes-nous attachés à l'Église, à la communion des frères et des sœurs? Et nous nous réjouissons de voir de plus en plus dans l'Église, tout au long de la semaine, des frères, des sœurs, des groupes qui sont là pour se retrouver pour telle ou telle activité, pour tel ou tel temps de prière, qui se retrouvent à l'Église, qui se retrouvent dehors, qui se retrouvent près de leur lieu de travail. Et nous bénissons le Seigneur, parce que ça veut dire que nous aimons nous retrouver. Nous aimons être ensemble. Ça veut dire aussi que nous nous attachons à la vie de l'Église, que nous nous attachons au ministère de l'Église. Ça veut dire que, de plus en plus, la compréhension de l'Église n'est pas simplement un culte le dimanche matin, mais c'est une vie de tous les jours. Et c'est ce que nous désirons, et c'est ce que le Seigneur veut bénir. Et à Jérusalem, il y avait donc des chrétiens attachés à leur église locale et ils louaient Dieu ensemble. Ils partageaient aussi, nous le savons, leurs excédents avec ceux qui étaient dans le besoin. Et ils servaient le Seigneur dans les grands rassemblements de l'église au temple, comme dans les maisons où ils aimaient se retrouver ensemble. Et ainsi, pendant ces premières années, l'église a grandi tranquillement d'une manière arithmétique par addition. Mais ils n'avaient pas tout vu. Parce que le Seigneur allait préparer quelque chose de nouveau. Il allait donner un nouvel élan, une nouvelle impulsion à la croissance de son Église. Et tout commença par un problème. Un problème justement lié à la croissance de l'Église. L'Église avait tellement cru que les apôtres se trouvaient débordés. Ils étaient à la fois pris par leur fonction de prédicateur, ministère de la parole, la prière. Mais ils étaient de plus en plus accaparés aussi par les besoins de l'Église, et notamment la distribution de la nourriture aux veuves. Et certains en arrivaient à dire, mais telle ou telle partie est négligée. Je crois qu'ils étaient surtout très débordés. Il y avait donc un problème lié à la croissance. Ils étaient dépassés. Il y avait des tensions. Et c'est alors, nous connaissons bien le texte dans Actes 6.3, que les apôtres ont réuni l'église de Jérusalem et ils ont dit à l'assemblée, « Frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. » Et alors l'église s'est retrouvée, ils ont parlé ensemble, ils ont choisi sept frères. Et il nous est dit qu'ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et ces sept frères, les diacres de l'église de Jérusalem, à commencer par Étienne et Philippe, ont commencé à servir le Seigneur. Ils ont déchargé les apôtres, mais nous savons qu'ils sont allés bien au-delà que la simple distribution de nourriture. Il suffit de penser au ministère d'Étienne ou au ministère de Philippe. Et c'est à partir de ce moment-là où l'église va mettre en place ses structures, va libérer les ministères qui sont en son sein, qu'une nouvelle dynamique va s'enclencher. Et je lis dans Actes 6-7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » Nous allons voir maintenant, avec la diapo suivante, qu'à partir d'Actes 6, une nouvelle croissance va se mettre en place. Alors, c'est là que je dis, elle n'est pas forcément visible dans notre texte français. Mais voilà les versets que je vous propose. Acte 6.1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Alors les hénélistes murmurèrent contre les Hébreux, etc. Acte 6.7 que je viens de mentionner, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte 9.31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 12, 24, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » Alors, je vous parle d'une nouvelle dynamique, mais je vous dis qu'elle n'est pas forcément visible, parce que c'est vrai que les verbes que nous avons là, sont presque les mêmes en français que ceux que nous avions au début. Seulement, je vous ai dit que chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, lorsque Luc parle de croissance, il utilise le verbe prostitémie, par addition. Mais à partir d'acte 6, il change de verbe. Et pour parler d'augmentation, d'accroissement, il utilise maintenant le verbe plétuno, qui en français se traduit par multiplier. D'acte 2 à acte 5, il dit Dieu ajouté. Et à partir d'acte 6, il dit « Dieu multiplié ». On passe donc d'une croissance arithmétique progressive à une croissance géométrique exponentielle. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je trouve que ça mérite que nous nous y arrêtons quand même un instant pour essayer de comprendre, mais que s'est-il donc passé pour passer de cette croissance arithmétique à cette croissance géométrique, de cette addition à cette multiplication? Tout d'abord, il y a eu une amplification de la prédication. Au début, nous le voyons dans les actes, seul Pierre prêchait. Et c'est vrai que le ministère de l'apôtre Pierre était efficace. Et pendant plusieurs temps, c'est lui qui prêchait. Mais il est arrivé un moment, nous le voyons à la fin d'acte 5, acte 5, 42, où les autres apôtres ont commencé, eux aussi, à enseigner. Nous le voyons, acte 5, 42, je le disais, chaque jour dans le temple, dans les maisons, ils, et ça nous renvoie au verset 41, les apôtres, ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a donc eu une amplification de la parole. Et ensuite, cette amplification de la parole ne s'est pas cantonnée aux disciples, aux apôtres, pardon. Mais les disciples mêmes sont devenus des prédicateurs, des témoins de Jésus-Christ. Ça commencera par Étienne, ça continuera par Philippe. Et il nous est dit qu'après la dispersion, les disciples qui vont aller en Chypre ou qui vont aller à Antioche vont commencer à parler du Seigneur eux-mêmes. Une amplification du témoignage, une amplification de la prédication. Deuxième point qui a amené ce changement de dynamique, l'engagement dans le service de Dieu. Et ça, c'est très important aussi. On le voit, c'est sitôt après la nomination des diacres qu'un effet multiplicateur encore plus grand, acte 6, 7 dit, une très grande multiplication. C'est après la nomination des diacres que cette grande multiplication va se passer. Et grande multiplication peut être traduite vraiment par multiplication exponentielle. Autrement dit, quand l'Église a commencé à relâcher les ministères, les capacités, les dons qui étaient en son sein, la croissance de l'Église a explosé. La croissance de l'Église a explosé. Pierre était capable de s'adresser à une foule. Et à travers son ministère, Dieu ajoutait à l'Église. Mais quand l'Église tout entière a commencé à servir, quand de plus en plus se sont levés pour Dieu, plus rien ne pouvait contenir la croissance de l'Église. Elle montait en multiplication vers des sommets, et ainsi Jérusalem a été remplie du ministère de la parole. Ainsi, en conclusion de ce point, l'Église grandit en addition suite au ministère de Pierre. Mais elle commença à croître en multiplication quand chacun s'engagea dans le témoignage, et elle commença à croître exponentiellement lorsque chacun commença à servir le Seigneur selon l'appel et les dons que Dieu lui avait donnés. C'est merveilleux de réaliser ça. Mais nous sommes conscients que pour que cette croissance additionnel soit suivi d'une croissance par multiplication, une croissance exponentielle, il faut que l'Église soit en pleine santé. Il faut que vraiment chacun soit attaché à son Église, soit planté dans son assemblée, enraciné dans son assemblée, dans le lieu que Dieu a choisi pour que nous y portions des fruits. Il nous faut aussi des chrétiens qui soient désireux d'atteindre ceux du dehors, d'aller là où Dieu nous a placés, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, pour y partager la parole. Je crois qu'il y a un temps pour croître par addition. Mais si nous voulons rentrer dans une croissance par multiplication, il va falloir rentrer dans cette nouvelle dimension. Je vais vous donner la pensée de mon cœur. Nous sommes rentrés depuis 4 ans dans une croissance arithmétique. Année après année. Je regardais un peu, j'avais dessiné les courbes sur mon ordinateur, et je regardais comme ça pour voir ce que ça pouvait donner. Croissance en membres de l'Église, croissance en fréquentation des cultes, croissance dans les offrandes, croissance dans les baptêmes, croissance dans les baptêmes du Saint-Esprit. Et nous sommes dans une croissance arithmétique, béni soit Dieu pour ça. Mais maintenant Seigneur, si tu nous donnais de rentrer dans une croissance par multiplication, une croissance géométrique, la bénédiction de Dieu demeure sur nous. Soyez féconds, multipliez, nous a dit le Seigneur. Seigneur, moi j'ai envie de vivre le verbe plétuno. De vivre le verbe plétuno, ensemble un verbe de multiplication. Ben, je vais vous dire, pour le Seigneur, ce n'était pas encore suffisant. Parce que, comprenez bien la situation. Il y a une croissance additionnelle. Il y a une croissance géométrique, mais, nous sommes encore à Jérusalem. Nous n'avons pas quitté les murs de Jérusalem. Il y a une croissance additionnelle et géométrique, mais à Jérusalem et dehors. Dehors, il n'y a rien pour l'instant. À part quelques-uns qui ont commencé peut-être à témoigner comme cela. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, mais plus loin, hein, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il va arriver un moment, vous connaissez acte 8, hein, après la mort d'Étienne, où le Seigneur va le secouer. Et dans un premier temps, il va les forcer encore une fois dans une nouvelle croissance. La deuxième croissance, croissance par multiplication, est née des tensions liées à la croissance de l'Église, à la distribution. Et la troisième phase de croissance est enclenchée par les tribulations, par les persécutions. Et cette troisième phase de croissance, je vais le dire rapidement, c'est la phase extensive. La croissance extensive, ça vient du domaine de l'agriculture. On parle de croissance extensive dans l'agriculture lorsque des agriculteurs, au lieu de développer la rentabilité, la productivité sur leur terre, vont défricher de nouvelles terres. Labourer, ensemencer, etc., de nouvelles terres. Aujourd'hui, il est clair que dans nos pays, pour les agriculteurs, on n'est plus trop dans une croissance extensive, mais plutôt dans une croissance au niveau des quintaux, puisque la plupart des terres sont aujourd'hui cultivées. Mais quant à l'Église, à l'époque des apôtres, le Seigneur ne pouvait pas se contenter de super rendements à Jérusalem, parce qu'à côté, il y avait tout à faire. Alors, à un moment, Dieu va les bousculer, et il va le faire en deux temps. C'est ce que nous voyons avec la diapo 8, tout d'abord. Donc, ils sont à Jérusalem, acte 2 à 7, c'est le premier cercle jaune. Ils sont là, ils grandissent, ils remplissent tout Jérusalem, une addition, une multiplication. Et puis, Dieu, à un moment, va utiliser certainement les tensions qui sont là, les tribulations, pour les pousser dehors. Pour les pousser où ? En Samarie, acte 8. Pour les pousser aussi en Judée. Je rappelle acte 10, acte 11, quand Pierre est en Judée, quand Pierre va chez Corneille, il les pousse pour qu'ils aillent apporter la parole. Et là, ils vont commencer aussi à témoigner du Seigneur dans cette deuxième zone, cette zone verte. La première fois, il a dû les pousser. Et puis le Seigneur va en envoyer quelques-uns jusqu'à Antioche. Antioche, c'est, vous voyez le coup de la Turquie et la Syrie, quand la Turquie redescend, là, le coin de la Méditerranée, Antioche est juste là, dans cet angle. Et Dieu les envoie, mais voilà, exactement, le cercle rouge, les envoie de Jérusalem jusqu'à Antioche. Il envoie certains des disciples, et là, il y a une nouvelle église qui va s'établir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette église d'Antioche, dans acte 11, je ne sais plus, je retrouve ma référence, acte 11 et 24, je ne sais plus exactement, il est dit que plusieurs se joignaient, oui, acte 11, 24, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Joindre, c'est le verbe prostitémie, additionner. Ils ont commencé à Antioche, et là, le même phénomène de croissance qu'il y a eu à Jérusalem a commencé à s'opérer. La croissance par addition, et puis au fur et à mesure, la croissance par multiplication. Mais à Antioche, ils vont raisonner ensuite d'une manière différente. Ils ne vont pas faire comme à Jérusalem. Ils ne vont pas attendre les persécutions pour partir. Ça leur a servi de leçon. Mais vous savez, acte 13, un jour, ils sont dans un temps de jeûne et de prière et le Saint-Esprit va parler. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et ils vont envoyer les deux apôtres. Et ils vont rentrer eux aussi dans cette phase extensive depuis Antioche, qui est la véritable église missionnaire. Et Paul et Barnabas vont aller en Chypre. Il y aura la Galatie, puis plus tard, Paul, avec ses compagnons, ira à Éphèse. Et nous savons qu'à Éphèse, il va y avoir aussi toute une croissance extraordinaire. En 2 ans et demi, c'est non seulement la ville d'Éphèse, mais toute la région de l'Asie, toute la province autour d'Éphèse qui va être remplie de la parole de Dieu. Corinthe, qui était avant la Grèce, et jusqu'à Rome. Et ainsi, nous voyons comment l'Église a grandi par extension. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et nous voyons donc ces trois phases de croissance. Une phase par addition, où le Seigneur met en quelque sorte les bases. Une phase par multiplication, où vraiment il accélère les choses. Et ensuite une phase par extension, où il va prendre certains des éléments qui sont dans l'Église pour les envoyer de force, s'il le faut, ou de gré, c'est encore mieux, vers d'autres lieux. Mais je crois que ça, c'est la croissance de toutes les églises. Une croissance par addition, on avance. Le Seigneur, souvent c'est ce qu'il dit à Israël, il ne veut pas leur donner tout le pays en un instant, parce que sinon il serait plus quoi en faire. Donc, on avance, on progresse. L'Esprit de Dieu agit. Et puis après vient cet effet multiplicatif. Et quand cette multiplication est là, cette croissance, alors Dieu dit, bon, c'est bien, vous avez bien grandi entre vous, tout est bien, votre église s'est bien développée, maintenant je vais en prendre 2, 3 là et je vais les envoyer ailleurs. Et ils vont reproduire la même chose. Et vous allez les bénir. Et je me dis, mais Seigneur, ça, c'est la croissance de l'église dans les actes, c'est la croissance de nombreuses églises missionnaires dans le monde entier, et pourquoi ça ne serait pas notre croissance aussi? Nous avons la même bénédiction. La bénédiction de Dieu sur Adam, sur Abraham, sur l'Église, des apôtres est encore sur nous aujourd'hui. Oui, l'Église de France peut encore grandir. Dieu veut la faire croître. Il y a des terrains qui sont aussi difficiles que la France. Mais ce que Dieu cherche dans son Église, c'est des gens qui ont encore envie de rentrer dans ce plan. Seigneur, nous grandissons, mais nous comprenons que si nous voulons aller plus loin dans la croissance, tu nous appelles à prendre une part dans cette œuvre. La croissance ne peut pas être simplement le fait d'un homme, de la prédication d'un homme. La croissance, surtout par multiplication, c'est le fait de tous, de notre engagement. Seigneur, c'est ce que nous voulons, que tu nous donnes cette croissance, que tu nous donnes cet effet multiplicateur. Et pourquoi pas, Dieu voulant un jour, que notre Église devienne même une Église qui sème. C'est ce que nous désirons aussi. La croissance est au cœur même du projet de Dieu. Et le Seigneur veut nous faire rentrer dans cette dynamique vertueuse. Le revêtement de l'Esprit est une dynamique de croissance. Que nous puissions y avancer pas à pas. Les projets de l'Esprit n'ont pas changé. Dieu veut toujours que son Église grandisse. La bénédiction de la croissance fait partie de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et la parole du Seigneur demeure. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Prions pour cela. Mettons-le à l'œuvre par la foi. Et soyons convaincus que Dieu veut faire croître encore nos assemblées. Amen.